une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 27 mai, merci de votre fidélité. Une nouvelle fois, nous allons vous proposer 7 jours d'événements en une session d'information avec les reportages de la rédaction, bien sûr. Une semaine d'actualité à écouter aussi quand vous le souhaitez sur le site de la radio RFI.fr. Cette semaine, nous allons nous rendre aux Philippines, en Iran, en Côte d'Ivoire, par exemple. Notre invité cette semaine est Pierre Grosser, spécialiste des relations internationales, historien, professeur à Sciences Po à Paris. Il vient d'écrire un livre passionnant qui s'intitule « L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle », un ouvrage publié chez Odile Jacob. Bonjour Pierre Grosser.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Votre livre, c'est une vision totalement décentrée par rapport à nous, évidemment, de l'histoire du XXe siècle.
Alors elle est en partie décentrée par rapport à nous, puisque j'insiste beaucoup sur les acteurs asiatiques. Mais en même temps, ce n'est pas si décentré que ça, puisque on parle beaucoup aussi de France, des États-Unis, de la Russie, mais en rappelant, et de la Grande-Bretagne, en rappelant que c'était aussi des puissances asiatiques. Et donc, un certain nombre de leurs calculs stratégiques, hein, pendant tout le XXe siècle, et notamment au début du XXe siècle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ont été très très marqués par l'Asie, parce qu'on avait déjà une conception globale des relations internationales, et que c'était des empires qui étaient des globaux. La Russie, l'Asie, l'Europe, le Caucase, tout ça, c'est l'horizon de la Russie.
Où l'on comprend, grâce à votre livre, Pierre Grosser, que ce continent, cette partie du monde, a eu une influence dès 1900, dès le début du XXe siècle, en Europe, ne serait-ce qu'avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, il y a eu une compétition entre puissances aux alentours de 1900, dans la région, et notamment autour de la Chine. Hein. Si on veut comprendre aujourd'hui la Chine, il faut bien se rappeler quand même cette compétition pour arracher des morceaux de Chine à un empire qui semblait à l'époque extrêmement déclinant, qui est un petit peu réhabilité aujourd'hui. Et puis surtout, c'est cette dimension asiatique des stratégies a complètement déterminé les alliances qui se sont mises en place à partir de 1905, et notamment c'est la question de la défaite de la Russie face au Japon qui a une importance absolument considérable, puisque la cause de la Première Guerre mondiale, c'est pas la question allemande, enfin la question allemande joue aussi, mais c'est aussi le déclin de la Russie à cause de cette défaite et le retour en force de la Russie dans les années entre 1907 et 1914.
Ah, il est pas possible de comprendre le monde d'aujourd'hui sans s'intéresser à l'Asie, d'ailleurs on va le constater dans cette émission, ça vaut aussi pour le XXe siècle.
Ça vaut aussi pour le XXe siècle, et je crois ce qui est important pour tous les observateurs de la scène internationale, et je pense demain aussi pour les étudiants, les élèves, etc. C'est que pour comprendre le monde, pendant très très longtemps, on disait qu'il fallait comprendre comment avait fonctionné l'Europe, le Rhin, la Sarre, la question polonaise, etc., etc., qui sont certes absolument essentielles encore aujourd'hui. C'est pas du tout l'idée, est pas du tout de dire que ça n'a aucune importance. Mais si on veut suivre l'actualité et comprendre ce qui s'y passe, il faut aussi connaître la profondeur historique des problématiques, c'est-à-dire effectivement l'humiliation de la Chine, les questions des frontières du Japon, la question coréenne, etc., etc. Et ça, évidemment, c'est un peu moins enseigné, un petit peu moins connu sans doute.
Étudiants qui vont devoir lire votre livre.
Eh bien, j'espère bien.
At terrible moments like these, it is customary for leaders, politicians and others to condemn the perpetrators and declare that the terrorists will not win.
Alors, avant de reparler de l'Asie, Pierre Grosser, partons sans tarder en Grande-Bretagne. Vous venez d'entendre Theresa May, la Première Ministre. Après l'attentat de Manchester, qui a fait 22 morts lundi lors d'un concert de la chanteuse Ariana Grande, le kamikaze était un Britannique d'origine libyenne, connu des services de renseignement. Il appartenait à l'organisation de l'État islamique. Il n'a pas agi seul. Le père et le frère du terroriste ont été arrêtés en Libye et jeudi et hier, de nouvelles arrestations ont eu lieu. Mercredi, une cérémonie d'hommage s'est déroulée dans la ville meurtrie. Reportage d'Anastasia Becchio.
Émotion, calme et recueillement sur la place devant la mairie de Manchester, noire de monde. Sur la scène, des dignitaires religieux, chrétiens, musulmans, juifs, les représentants des forces de l'ordre, la secrétaire d'État à l'intérieur, Amber Rudd, le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, et le lord maire de la ville, Eddie Newman.
Le peuple de Manchester se souviendra toujours des victimes et nous défierons les terroristes en travaillant ensemble pour créer des communautés unies dans la cohésion et la diversité.
L'unité dans la diversité, c'est ce qui résume Manchester, selon Joe Hancock, professeur d'art.
Je pense que c'est l'esprit de Manchester. Nous sommes sortis de l'ère industrielle pour œuvrer ensemble à créer quelque chose de meilleur. Je connais beaucoup de gens qui sont en colère, mais ils comprennent la différence entre la rage personnelle et la nécessité d'être ensemble dans des moments comme ça.
La cérémonie terminée, des sikhs enturbanés distribuent des boissons. Des bouddhistes entonnent une prière. Des musulmans déploient des banderoles appelant à l'amour. Une atmosphère qui plaît à cet étudiant français.
Les gens n'essayaient pas de chercher des coupables. Ils sont restés unis, ils ont pensé à s'aider, à s'entraider. Enfin, c'était beau à voir, quoi. Malgré tout, ils sont restés dignes dans leur douleur. Je pense qu'on a vraiment beaucoup, nous, Français, à apprendre d'eux.
À la nuit tombée, la place reste animée. Les bouquets de fleurs et les veilleuses s'amoncellent devant la mairie.
L'enquête sur cet attentat est bien sûr à suivre dans nos journaux. Une semaine d'actualité. Pierre Grosser, il faut ajouter à cet attentat un autre attentat hier en Égypte contre des chrétiens coptes. Une attaque de cars qui transportait justement des chrétiens, au moins 26 victimes. Le terrorisme d'évidence est une cause majeure d'angoisse, de problèmes dans les relations internationales aujourd'hui.
Ce qui est assez étonnant, c'est que le nombre de morts reste, c'est terrible de le dire, relativement faible par rapport aux autres causes de mortalité. Mais ça prend une ampleur tout à fait considérable parce qu'aujourd'hui on a l'impression que ça peut venir de n'importe où et n'importe quand et que ça remet en cause notre société, notre vivre ensemble. Et surtout, le problème, c'est que souvent on a des réactions d'abord émotionnelles, ce qui est tout à fait normal, mais qu'on en oublie quand même très souvent l'analyse du phénomène, l'analyse des réseaux. Et c'est pas seulement en désignant, je pense, une idéologie ou en désignant uniquement, disons, des problèmes psychologiques, comme on disait auparavant, d'ailleurs, pour des gens qui étaient communistes, on disait aussi qu'ils étaient un petit peu déstabilisés psychologiquement, qu'on arrive à résoudre les problèmes. Là, quand même, sur les relations, on sait aujourd'hui, sur cette affaire, que les Britanniques ont quand même envoyé un certain nombre d'anglo-libyens en 2011 se battre contre Kadhafi. Voilà, la circulation des individus, la manière dont aussi certains ont pu être instrumentalisés à certains moments, eh bien, je pense que ça pèse sur les choix qui sont faits ensuite et bien entendu sur les pratiques terroristes qui peuvent exister.
Pierre Grosser, je m'adresse à l'historien des relations internationales. En ce moment même a lieu en Sicile un G7. On s'opère un peu aujourd'hui dans le G7, les G20, etc. etc. Le G7, il faut rappeler que c'est un club des pays les plus riches de la planète.
Tout à fait, qui a été créé plutôt, il faut dire, par effectivement les Français et les Allemands, Monsieur Giscard d'Estaing et le chancelier allemand Helmut Schmidt. Mais d'ailleurs, je rappelle que les Japonais avaient déjà proposé ce genre de choses en 1972, mais c'est avec la crise de 1973 qu'on s'est dit qu'il fallait pas recommencer comme dans les années 30, c'est-à-dire faire un peu le chacun pour soi, et au contraire essayer de jouer ensemble, de négocier ensemble pour éviter qu'il y ait une espèce de compétition qui provoque un retour au protectionnisme. Et aujourd'hui, où on parle beaucoup de retour au protectionnisme, je pense que ce genre de discussion peut être relativement utile, même si on sait très bien que c'est, il y a une partie évidemment de show, c'est ça qu'on va voir. Mais derrière, il y a quand même du travail, il y a le travail des Sherpas, il y a tout un travail de texte, de normalisation, etc., etc. Je pense que ça, c'est ce qu'on voit le moins, mais qui est très important aussi pour la santé économique du monde.
Sachant qu'il y a un G20 dans peu de temps, d'ailleurs.
Oui, mais voilà, la composition est assez différente.
Avec la Russie.
Voilà,
exemple,
avec la Russie. Et puis, alors l'année dernière, c'était intéressant, puisque le G7 et le G20 étaient en Asie. Mais là, le G20, normalement, c'est ce qui est un produit très largement de la crise de 2008, c'est-à-dire l'idée qu'il faut essayer de coopter des nouvelles puissances qui elles-mêmes sont en difficulté, puisque quand même on a fait les choux gras des BRICS ou des choses comme ça. Bon, la Russie a quand même un certain nombre de difficultés, mais quand on voit ce qui se passe au Brésil, quand on voit ce qui se passe en Afrique du Sud, etc., etc., voilà, les BRICS sont pas aussi reluisants qu'on l'a longtemps pensé, quand certains disaient c'est l'avenir du monde qui vont complètement changer les règles du jeu international.
RFI.
Pierre Grosser, revenons maintenant sur la visite de Donald Trump à Jérusalem, début d'un long voyage à travers le monde. Correspondance lundi de Guilhem Deltaï.
Words fail to capture the experience. Les mots ne peuvent décrire l'expérience, affirme Donald Trump à propos de sa visite au mur des Lamentations, et il assure qu'il en gardera à jamais le souvenir. Mais c'est sur ses espoirs et ses ambitions pour la région que le président américain préfère s'étendre.
Je remercie le Premier ministre pour sa détermination à poursuivre le processus de paix. Il y travaille très dur, ce n'est pas facile. J'ai entendu dire que c'est l'un des accords les plus difficiles de tous, mais j'ai le sentiment qu'au bout du compte, nous y arriverons, j'espère.
I hope. La paix entre Israéliens et Palestiniens, Benjamin Netanyahou aussi dit vouloir y croire. Il l'inscrit dans un cadre régional et souligne le rapprochement d'Israël avec plusieurs de ses voisins sunnites.
Les dangers communs font d'anciens ennemis des partenaires. Et c'est là que nous voyons quelque chose de nouveau et de potentiellement très prometteur. Ce ne sera pas simple, mais pour la première fois en bien des années, je vois un réel espoir de changement.
Un espoir de changement à la faveur d'un front uni contre l'Iran qui, pour Donald Trump, menace la région.
Donald Trump qui participe, on le sait en ce moment même, à un G7 en Sicile, on vient d'en parler, en tout cas on vous en parle aussi dans nos journaux. Cap vers l'Asie, Pierre Grosser, vers les Philippines, où le président Rodrigo Duterte a décrété l'état d'urgence dans le sud de l'archipel pour combattre une insurrection islamiste, dit-il. Correspondance de Manille, signée Marianne Dardar.
Décrété par Rodrigo Duterte pour 2 mois, la loi martiale permet de prendre des mesures exceptionnelles, comme la restriction de la liberté de circulation et la suspension de l'habeas corpus, autorisant la détention sans mandat d'arrêt. Mardi soir, l'armée philippine poursuivait à Marawi sa chasse à l'homme visant Tisnilon Apilon, présenté comme le chef de file national de l'organisation État islamique. Tisnilon Apilon est également l'un des principaux dirigeants du groupe terroriste Abu Sayyaf, spécialisé dans les enlèvements crapuleux. Sur les réseaux sociaux, des habitants de Marawi ont posté des photos montrant le drapeau de l'organisation État islamique déployé par les terroristes qui ont attaqué un hôpital et incendié une église, la prison municipale et 2 écoles. L'extrême sud des Philippines reste en proie aux violences de divers groupes criminels se réclamant de l'islam radical. Par le passé, le président Rodrigo Duterte avait déjà menacé d'avoir recours à la loi martiale, utilisée en 1972 par Ferdinand Marcos pour instaurer sa dictature.
Suite à d'une semaine d'actualité, Pierre Grosser, il faut ajouter que cette semaine, un navire américain a suscité la colère de la Chine en passant jeudi près d'un îlot revendiqué par Pékin. Ce voyage de Donald Trump à Jérusalem vous a, semble-t-il, intéressé ? Et ce qui a beaucoup surpris, c'est la dédicace qu'il a faite après la visite.
Oui, ça, je vais pas commenter cette dédicace. Elle a été très, très, très largement.
Sur les réseaux sociaux, notamment.
Voilà, sur les réseaux sociaux, par rapport, on l'a comparé notamment à celle d'Obama, bien entendu. Et puis surtout, le fait qu'il n'y avait rien sur l'endroit qu'il avait visité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant.
Donc c'est le mémorial, Yad Vashem, il faut le.
Voilà, tout à fait. Oui. Après, sur ce qu'il a fait dans son voyage. Alors certains disent aujourd'hui, et je pense qu'ils n'ont pas totalement tort, qu'on a l'impression d'un accueil royal effectivement en Arabie Saoudite et que c'est là où il a été le plus heureux, que ça a été un petit peu plus compliqué en Israël parce que il a quand même rencontré Mahmoud Abbas et il a quand même parlé de processus de paix. Et puis la troisième étape est pas spécialement brillante puisqu'il a quand même un peu fait la leçon avec d'ailleurs un tweet ce matin, je suis obligé de le dire, qui était quand même assez intéressant, où il disait c'est bien parce que on va avoir de l'argent et on va avoir des jobs. Donc c'est quand même un petit peu court comme vision stratégique.
Il a fait la leçon aussi à propos de l'OTAN en condamnant les États qui n'avaient pas payé leur cotisation,
qui ne payaient pas assez. Non, à Jérusalem, c'est vrai qu'on on craignait un tout petit peu une politique extrêmement pro-israélienne, avec notamment la nomination de l'ambassadeur des États-Unis, qui est quand même très 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 marqué. Mais pour le moment, on a du mal à voir exactement ce qu'il veut faire, à part cette espèce de pensée magique je suis capable de faire un deal, je suis capable de faire un deal, et mon gendre est encore plus capable de faire un deal. Mais là, je pense que son gendre est maintenant occupé un petit peu à d'autres affaires avec le FBI.
Oui, il y a quelques enquêtes qui commencent à se rapprocher de lui, Pierre Grosser. Les Philippines, on se rapproche de l'Asie, on est en Asie. Vous vouliez dire quelque chose à propos de...
Oui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression de voir des choses assez anciennes, puisque faut rappeler que donc les Philippines, qui étaient espagnoles, après la guerre entre les États-Unis et l'Espagne, sont passées aux États-Unis, puisque les États-Unis ont considéré que les Philippines n'étaient pas assez mûres pour devenir un État indépendant. Ils ont mené mené ensuite, de 1900 à 1902, une guerre de guérilla absolument terrible, et certains disent que c'est vraiment le fondement de la force militaire américaine et la tradition américaine de contre-guérilla, justement dans ces régions, Mindanao et autres, c'est-à-dire contre des musulmans, avec tout un discours pourtant de liberté religieuse, hein, qui était vraiment la marque de fabrique des États-Unis. Mais cette guérilla a été absolument terrible, a fait des centaines de milliers de morts. On a du mal évidemment à savoir combien il y en a eu exactement. On a fait des camps de concentration, pas évidemment les camps de concentration à la nazie, mais comme les Britanniques en ont fait aussi en Afrique du Sud, ou comme les Espagnols en ont fait à Cuba. Et on a l'impression que finalement cette zone reste très très largement instable, et que la question de la religion et la question aussi du centre et de la périphérie aux Philippines n'est absolument pas réglée, donc depuis vraiment beaucoup plus d'un siècle.
Sept jours dans le monde.
Et revenons maintenant pour conclure cette première partie sur le voyage de Donald Trump, toujours, qui avant de se rendre en Israël, nous en avons parlé à l'instant, est allé en Arabie Saoudite sunnite, un voyage condamné par l'Iran chiite. Téhéran lundi, Tiavosh Ghazi.
La réunion en Arabie Saoudite était un show qui n'a aucune valeur politique ni concrète. L'Arabie Saoudite a déjà organisé de tels shows par le passé, a déclaré le président Rouhani. Il a également rejeté les accusations de soutien au terrorisme formulées contre l'Iran par le président américain Donald Trump et le roi Salman d'Arabie Saoudite. Ceux qui ont lutté contre les terroristes sont les peuples irakiens et syriens. Les conseillers militaires iraniens les ont aidés et vont continuer à le faire, a affirmé encore le président iranien. Hassan Rouhani a également critiqué le contrat de 110 milliards de dollars conclu entre Washington et Riyad pour l'achat d'armes américaines. Vous ne pouvez pas résoudre le problème du terrorisme simplement en donnant à une superpuissance l'argent de votre peuple, a affirmé le président Rouhani à l'adresse des dirigeants saoudiens. Hassan Rouhani a rejeté tout arrêt de tests de missiles comme l'ont demandé les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Sachez que lorsque nous aurons besoin techniquement de faire des tests de missiles, nous le ferons et nous ne demanderons à personne la permission, a déclaré le président iranien.
Un commentaire, Pierre Grosser, vous étiez effaré en écoutant ça.
Oui, alors non, pas effaré, parce que je pense que l'analyse est pas fausse, c'est-à-dire qu'on comprend pas très bien ce qui va se passer à partir du moment où effectivement des sommes d'argent absolument considérables vont aller de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, soit pour des investissements pour les infrastructures, soit évidemment pour l'achat d'armes. Donc effectivement, c'est des dollars qui arrivent aux États-Unis, mais donc on peut se poser la question si dans les causes profondes du terrorisme, les questions sociales ou autres, cet argent ne pourrait pas être mieux utilisé. Et puis surtout d'introniser l'Arabie Saoudite comme grand maître du sunnisme, comme grand leader du sunnisme, ça étonne quand même un certain nombre de pays sunnites, parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même un sunnisme un petit peu particulier, puisque c'est le wahhabisme qui est entre guillemets la religion officielle. Je dis bien entre guillemets, c'est pas tout à fait une religion.
Pierre Grosser, on va en reparler dans la deuxième partie de l'émission, mais dans l'actualité cette semaine, il y a aussi l'arrestation de 6 ressortissants japonais accusés d'activités illégales en Chine ces derniers jours. Ça m'a fait penser, toute proportion gardée évidemment, à ce que vous appelez la poudrière de la Mandchourie, qui a, là on revient au XXe siècle, qui a été un élément déclencheur de la Seconde Guerre mondiale aussi.
Oui, alors souvent on se rappelle qu'effectivement 1931, il y a eu ce qu'on appelle l'incident de Mandchourie. On a tous lu Tintin avec le Japon qui sort de la SDN en 1933, oui. Etc., etc. Mais en fait, c'est une histoire qui est bien plus ancienne, avec une compétition entre les Russes, les Japonais et les Chinois, qui avec un certain nombre de colons, cette terre qui est gigantesque, hein, c'est la France et le Royaume-Uni en superficie, donc une rivalité qui est tout à fait considérable, et une guerre notamment entre la Chine et la Russie qui est complètement oubliée, celle de 1929, qui inquiète les Japonais, donc avant 1931, mais qui montre aussi que les Chinois sont facilement battables et que la SDN va rien faire. Donc d'une certaine façon, déjà à la fin des années 20, on a la répétition générale de cet incident mandchourien de 1931, qui est connu comme un incident qui aurait été un des éléments qui enclenche la Deuxième Guerre mondiale.
Qui a entre autres montré les failles de la Société des Nations.
Bien entendu.
Pierre Grosser, nous allons faire une pause, écouter quelques informations de ces dernières heures, et on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler de l'actualité française et africaine et de cette histoire du monde qui se fait en Asie. À tout de suite. Pour toutes ces informations, retour à notre voyage dans le temps avec bien sûr les reportages de la rédaction. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Grosseur qui vient d'écrire « L'histoire se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle », un ouvrage édité chez Odile Jacob.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Pierre Grosseur, je voudrais que l'on revienne sur la démarche intellectuelle qui est la vôtre. Je rappelle que vous êtes chercheur, historien, enseignant, professeur, chercheur à Sciences Po, qui est de décentrer le regard pour mieux comprendre le XXe siècle, notamment en Europe, ici sur ce continent, à l'appui de travaux de beaucoup d'historiens du monde entier.
Oui, bah de toute façon, maintenant, là, on a une mondialisation de la recherche et donc avec heureusement une langue commune qui est l'anglais. Enfin, ça aurait été le français, je m'en serais pas plein. Mais disons une langue commune, ce qui fait qu'on a des travaux vraiment du monde entier qui sont publiés et qui permettent d'avoir accès à des travaux sur archives de plus en plus diverses, avec en plus des gens qui ont des compétences linguistiques tout à fait remarquables, qui peuvent lire des archives mandchoues, mongoles, etc., etc. Et donc l'idée, c'est d'essayer de montrer que pour la plupart des décideurs, les questions mondiales sont importantes, c'est-à-dire que en Chine, on a toujours été concerné par ce qui se passait dans le reste du monde, et on a agi dans le reste du monde, et c'est exactement la même chose pour les grands décideurs, qu'ils soient russes, français, britanniques ou américains, et donc les questions asiatiques sont fondamentales. Par un des exemples importants, c'est évidemment que la guerre de Corée, en 1950, le déclenchement de la guerre de Corée, a été un des facteurs essentiels de la vraie naissance de l'OTAN. Au départ, c'était un bout de papier, mais c'est devenu une organisation, puisqu'on parle de l'OTAN ces derniers jours. Juin, cette attaque de la Corée du Sud par la Corée du Nord en juin 1950. Même ça a enclenché la question du réarmement allemand, qui a quand même beaucoup pesé dans la vie politique française. Donc les questions asiatiques sont fondamentales, d'autant plus que la France était en guerre d'Indochine à ce moment-là.
L'OTAN qui a décidé de se joindre à la coalition internationale, hein, c'est la décision qui a été prise à Bruxelles ces dernières heures. Puisque vous parlez de la guerre de Corée, Pierre Grosseur, ce qui me frappe toujours quand on parle de ce conflit, c'est qu'il est oublié.
Alors, les États-Unis ont dit souvent que c'était un des conflits oubliés pour eux parce qu'ils étaient coincés entre entre guillemets, bonne guerre, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, et mauvaise guerre, c'est-à-dire la guerre du Vietnam. Mais alors, depuis une vingtaine d'années, ça a été quand même assez redécouvert, cette guerre de Corée. Et puis, on a maintenant, avec l'accès à des sources soviétiques, chinoises, beaucoup plus d'éléments sur la manière dont les décisions ont été prises dans le camp communiste. Et donc, c'est plus important. Alors, la France a juste envoyé un bataillon pour montrer sa solidarité. Elle était très occupée à l'Indochine, en Indochine, mais moi je travaille sur la guerre d'Indochine et vraiment les deux étaient totalement liés, et toute la réflexion sur la guerre d'Indochine et une partie de la stratégie de la France en guerre d'Indochine était liée à la politique américaine en Corée.
Et d'évidence, Pierre Grosseur, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord et en Corée du Sud si on ne comprend pas ce qui s'est passé pendant la guerre de Corée.
Hein. Bien sûr, et même avant.
Dans les années 50,
c'est-à-dire dès les années 30, c'est-à-dire que finalement il y a une résistance à une occupation japonaise, puisque la Corée était annexée en 1910, mais une partie de cette résistance a eu lieu en Mandchourie, où il y a eu des contacts avec les communistes chinois, et puis d'autres résistants communistes se sont retrouvés en Union soviétique, dont un certain Kim Il-sung, qui est quand même le fondateur de la dynastie.
Jour en France.
Alors Pierre Grosseur, dans un instant nous partirons pour l'Afrique, mais auparavant quelques mots sur l'actualité française. Emmanuel Macron a eu jeudi son premier entretien avec Donald Trump, on en reparle de Donald Trump à Bruxelles, avant un sommet de l'OTAN que l'on a évoqué également. Dans la capitale belge, il a aussi parlé de l'Europe, on l'écoute.
Nous avons nombre de défis communs. La croissance économique, le retour de l'investissement, d'une Europe qui se développe dans la transition énergétique et environnementale, dans le numérique. C'est l'agenda que nous allons partager entre Belgique et France, mais que nous allons aussi ensemble porter au niveau européen. C'est avoir une Europe et en particulier une zone euro qui fonctionne mieux, dont on rénove le cadre institutionnel, mais aussi le fonctionnement au quotidien. Cette refondation européenne, c'est celle qu'ensemble je veux que nous puissions porter, celle qui sera la responsabilité de notre génération. Et on s'est parfois habitué à gérer l'Europe. Cette Europe-là, si on ne continue qu'à la gérer, elle se détricotera.
Le président français qui participe aujourd'hui encore à son premier G7 en Sicile. Alors revenons maintenant sur des révélations embarrassantes pour Richard Ferrand, le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires, un proche d'Emmanuel Macron. Dans un article de l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné mercredi, Raphaël Rennes.
Il se défend d'avoir commis quoi que ce soit d'illégal, mais l'affaire Richard Ferrand crée la suspicion dans un contexte de suspicion, reconnaît le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. Les faits remontent à 2011, alors que Richard Ferrand n'était pas encore entré en politique. Les mutuelles de Bretagne, qu'il dirigeait alors, avaient choisi pour leurs nouveaux locaux l'offre présentée par une jeune entreprise, une société qui venait même tout juste d'être créée, par la compagne de Richard Ferrand. Selon le Canard Enchaîné, Sandrine Doucan aurait même obtenu un prêt bancaire couvrant 100% de l'achat de ses locaux, précisément parce qu'elle avait la promesse de location émanant des mutuelles de Bretagne, qui au passage ont payé les 184 000 euros de travaux de rénovation des lieux. Et l'hebdomadaire satirique d'ajouter que depuis 2011, la société de Sandrine Doucan a vu sa valeur multipliée par 3000. Éclaboussé une semaine tout juste après sa nomination, le gouvernement d'Emmanuel Macron est passé à la défensive ce mercredi. Les cadres d'En Marche répétant à loisir qu'il s'agit d'affaires privées, d'argent privé, ce qui n'a rien à voir selon eux avec la moralisation de la vie publique.
Avant de repartir pour l'Asie, Pierre Grosser, parlons maintenant d'une polémique cette semaine en France. Polémique sur la place des femmes dans un quartier de Paris, le quartier de la Chapelle, c'est-à-dire dans le nord de la capitale. Un article du quotidien Le Parisien l'a en quelque sorte relancé. Reportage de Guillaume Fariol, lundi.
Aujourd'hui, pas de vendeurs à la sauvette place de la Chapelle, mais des forces de l'ordre, une dizaine d'hommes quadrillent les lieux, armes bien en vue. Une riveraine se félicite de cette présence policière, le harcèlement et l'insécurité, elle assure les vivres au quotidien.
C'est un quartier qui est devenu masculin à 90%. On arrive, on est quand même regardés de haut en bas. Là, j'ai une petite jupe. Regardez les trois en face, ils sont en train de me mater. Ouais, c'est un sentiment d'insécurité.
Les mesures prises ces derniers jours ne calment pas tout le monde. Une jeune femme sort de son immeuble à la simple évocation du nom d'Anne Hidalgo, la maire de la capitale. Elle explose de colère.
On n'arrête pas de la solliciter par téléphone, par courrier. Elle ne répond pas. Elle fait vraiment la sourde. Cette zone, géographiquement, on est abandonné. Je trouve ça vraiment inadmissible.
D'autres habitants sont plus mesurés. C'est le cas de Philippe Giraud, responsable de l'association SOS La Chapelle. Pour lui, la solution, c'est de revoir entièrement l'aménagement du quartier.
Il existe un projet sur la création d'une promenade urbaine sur lequel on fonde énormément d'espoir et qui permettrait de retricoter toute une urbanité.
La mairie de Paris assure que ce dossier est une priorité. Une rencontre aura lieu à la fin du mois entre les maires d'arrondissement et le procureur de la République. Un objectif, trouver une solution à long terme.
Et écoutez ces quelques femmes du quartier de La Chapelle, donc interrogées cette fois jeudi soir par Élise Dangean.
Alors moi je pense qu'il y a autant de situations que de femmes. Il faut écouter tous les témoignages.
Oui, c'est compliqué de se déplacer parce qu'il y a du monde sur la rue. Et effectivement, oui, il peut y avoir des incivilités. Mais ça m'arrive d'avoir des incivilités dans absolument tous les quartiers.
Le sexisme n'a ni origine ni couleur.
Je me sens plus en sécurité dans mon quartier que dans d'autres quartiers parce que justement, il y a des gens qui sont autour d'ici. Je connais énormément de monde qui effectivement sont dans la rue. C'est ce qui me permet de me sentir en sécurité.
Moi, concrètement, ça me fait peur de voir tous les flics qui se mettent sur les places. Et il y a un flic qui sort son fusil, quoi. Donc concrètement, moi, ça me fait plus peur qu'autre chose.
C'est vrai qu'il y a une surpopulation masculine dans le quartier. C'est un quartier où il y a énormément d'exilés qui se rassemblent.
Cette image-là peut faire peur, mais à vivre au quotidien, elle n'est pas oppressante.
Voilà, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui est venu me parler, un gars qui est venu me parler, et il est venu s'asseoir à côté de moi et on a discuté pendant 2 heures en fait. Et si on arrive à réagir d'une certaine manière et à dire en fait si tu viens me parler pour partager un moment avec moi ou discuter, ben ça peut être des moments super sympas.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Pierre Grosser, c'est intéressant ces propos de femmes qui dont certaines préfèrent vivre dans un quartier où elles sont quelquefois harcelées plutôt que vivre dans un désert.
Oui, c'est surtout le problème toujours, c'est de généraliser quoi. C'est comme par rapport aux terroristes dont on parlait tout à l'heure. C'est tout le problème de ce qu'on attend de l'État, d'avoir des grandes lois qui soient valables pour toutes les situations. On a des micro-situations et même dans un micro-quartier, vous avez des individus qui réagissent de façon différente, qui ont des interactions différentes, qui ont des attentes différentes de leur vie dans un quartier. Certains aiment effectivement qu'il y ait de la diversité, de la vie, etc. D'autres au contraire attendent le calme et de qu'il n'y ait plus de bruit à partir de 10h. Donc c'est extrêmement compliqué, ce qui, l'action publique devient de plus en plus complexe parce que les attentes sont de plus en plus complexes.
Alors Pierre Grosset, en parlant de l'Asie, elle était un peu absente de la campagne présidentielle ou c'est moi qui n'ai pas tout suivi de près?
Alors, elle a pas été très présente. Les questions internationales n'ont pas été absolument fondamentales.
Comme d'habitude.
Et comme souvent, disons, hein, ça dépend aussi de l'ambiance. Mais quand même, là, il y a eu un certain nombre de chocs. Avec le Brexit, avec l'élection de Trump, avec le problème de la Russie, avec évidemment tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc quand même, on était obligé de parler de relations internationales. Alors la Chine, c'est un autre... Enfin, l'Asie, c'est essentiellement la Chine maintenant. C'est un peu d'ailleurs étonnant. Mais elle était présente parce que c'est une espèce de entre guillemets, menace assez lointaine sur les emplois. Donc on se demande si c'est une menace ou une opportunité. En même temps, et on a entendu tout à l'heure le président le dire... ils vont tellement vite dans un certain nombre de domaines technologiques et scientifiques que si on se serre pas les coudes en Europe et si on y va en ordre dispersé, on pourra jamais rivaliser à la fois dans le domaine civil, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine militaire, etc., etc. Donc c'est une ombre qui plane et qui a été utilisée de temps en temps aussi comme contrepoint en disant, bah, par exemple, regardez pour l'éducation, on a l'impression que ça fonctionne mieux en Asie, les résultats sont meilleurs et donc pour faire des réformes de l'éducation, regardons du côté de l'Asie. Ce qui est pas toujours un très très bon modèle parce que je pense qu'on aura du mal à faire exactement la même chose.
Alors justement, Pierre Grosset, cette semaine, on a appris que l'agence Moody's avait infligé mercredi à la Chine son premier investissement depuis 28 ans. L'agence de notation financière s'inquiète des risques d'augmentation de la dette, la deuxième économie mondiale. Donc, je dirais pas que c'est le géant au pied d'argile, mais il y a des faiblesses.
Alors, c'est assez étonnant quand on suit depuis pas mal d'années la littérature sur la Chine. C'est qu'il y a toujours ceux qui sont très optimistes, voire trop optimistes, et ceux qui, d'un autre côté, disent ça va tomber. D'ailleurs, c'est la même chose pour la Corée du Nord. Ça fait à peu près 25 ans, depuis la fin de la guerre froide, qu'on dit que ça va exploser.
Que la guerre est imminente.
Ou que la guerre est imminente, ou que, de toute façon, le régime va s'effondrer. Donc, voilà, les prophéties, c'est aussi le problème. On n'a pas prophétisé la fin de l'Union soviétique, donc il faut essayer de se rattraper après. Donc là, sur le cas chinois, ce qui est étonnant, c'est qu'on a à la fois l'impression de la Chine qui est prête à investir partout, avec beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'État qui viennent se prosterner pratiquement devant le chef d'État chinois. Et puis, d'un autre côté, on a l'impression d'un certain nombre de fragilités, un certain nombre de fragilités internes. On le voit avec les questions de lutte contre la corruption ou autre. Et aussi de fragilités financières, parce qu'évidemment, il y a énormément d'argent. Les banques sont devenues pratiquement les plus fortes du monde. Mais on connaissait ça avec le Japon au début des années 90. Et on s'est aperçu qu'une partie de ces créances était quand même plus que problématique. Donc, c'est toujours très, très difficile de porter là aussi un jugement d'ensemble sur la situation chinoise. Je rappelle quand même que on a plus à perdre d'une Chine qui s'effondre et qui est en grande difficulté ou en grande tension avec des vagues migratoires ou d'autres problèmes profonds que d'une Chine qui réussit.
Alors, il y a un des passages passionnants, je trouve, de votre livre, Pierre Grosset, votre livre volumineux, hein, c'est un livre de poids dans tous les sens du terme, c'est quand vous expliquez, vers la fin de cet ouvrage, qu'il y a un rapport entre les événements de l'automne 89 en Europe, hein, l'écroulement du mur de Berlin et ce qui a suivi, et la répression, quelques mois auparavant, des manifestations de la place Tiananmen.
Tout à fait, il y a la répression place Tiananmen a évidemment beaucoup intéressé l'ensemble du bloc communiste, l'ensemble des pays communistes qui étaient déjà en grand mouvement, puisque le même jour de la répression, vous avez les élections en Pologne, les premières élections libres en Pologne. Et donc, vous avez les régimes, disons, un peu autoritaires, les plus autoritaires des régimes communistes, notamment RDA, notamment en Pologne, qui ont été tentés un peu d'imiter la même chose. Mais ils se sont aperçus que c'était assez contre-productif. Et de l'autre côté, ça pousser aussi les manifestants à être relativement modérés parce qu'ils voulaient pas de Tiananmen polonais ou de Tiananmen allemand. Et du côté de Gorbatchev, ça l'a marqué aussi beaucoup. Et donc, une des raisons pour lesquelles non pas le bloc communiste s'est effondré ou les régimes communistes se sont effondrés, mais la manière dont ils sont effondrés, je pense, tient beaucoup à ce message, finalement. Attention, si vous faites la même chose, eh bien, ça pourrait se passer de manière totalement différente dans les pays de l'Est, parce qu'il n'y a pas, évidemment, le même pouvoir qu'avait à ce moment-là le Parti communiste chinois et l'armée chinoise.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez plus que jamais à nous écrire. Je salue aujourd'hui Maria qui nous écoute à Séoul. On ne quitte pas l'Asie, Pierre Grosser. Un bonjour à Belinda, à Kinshasa, à Boubacar, à Niamey, à Benoît, à Cotonou. Je salue Elamine Diem à Dakar. Au Brésil, Michel Tenner doit être destitué comme Dilma Rousseff, écrit-il. Enfin, je salue Nestor à Bounia en RDC. J'estime, écrit-il, que la récurrence des mutineries en Côte d'Ivoire étale au grand jour les accords secrets conclus entre les rebelles et ceux qui dirigent actuellement ce pays. J'exhorte le président ivoirien à dire la vérité à ses citoyens par rapport à ces accords, mais également de résister au chantage des mutins. Fin de citation.
Jours en Afrique.
Et partons pour l'Afrique maintenant, Pierre Grosser, avant évidemment de revenir dans quelques minutes sur le continent asiatique. Justement, il nous faut revenir en Côte d'Ivoire, encore touchée donc par la révolte des soldats mutins démobilisés dans la région de Bouaké. Il y a eu de nouveaux affrontements lundi dernier, correspondance jeudi de Frédéric Gara.
Après la gestion pour le moins chaotique des mutineries de la semaine passée, le gouvernement ivoirien marche sur des œufs quand il s'agit de gérer les événements du début de semaine à Bouaké. Y a-t-il ou non des négociations avec les démobilisés? Le porte-parole du gouvernement, Bruno Conné, répond aux journalistes en déployant des trésors de nuances.
Je pense qu'il y a nuance entre négocier et discuter. Les discussions se poursuivent. Et comme je l'ai indiqué, chaque fois qu'un problème se pose, le gouvernement est ouvert à la discussion.
Est-ce que vous diriez donc que les 18 millions de francs CFA réclamés par les démobilisés est une demande légitime ou pas?
Je n'ai pas à vous répondre sur ça. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui discutent avec eux. Ces personnes-là pourront vous dire si ces sommes sont légitimes.
De fait, un Conseil national de sécurité a eu lieu hier après-midi au plateau, réunissant l'ensemble des ministres concernés pour tenter d'apporter la réponse la plus appropriée aux revendications des démobilisés. Avant d'entamer quelques discussions que ce soit, il y aura un travail de deuil pour les 4 victimes des affrontements de lundi matin. Il convient d'apaiser le climat pour pouvoir discuter posément entre interlocuteurs, nous indique-t-on.
En tout cas, les habitants de Bouaké se sentent vraiment abandonnés. Reportage de notre envoyé spécial Pierre Pinto.
Bouaké est un centre commercial important dans toute la région, mais la deuxième ville du pays contraste avec Abidjan. Ici, pas de building, ni de voie rapide ou d'embouteillage. Les entreprises sont peu nombreuses et l'industrie textile qui a un temps existé a totalement disparu. Soumaïla Doumbia est le président de la plateforme de la société civile de Bouaké. Pour lui, ce manque de développement est le nœud du problème des colères récurrentes.
La population en a marre, la population est très fatiguée aujourd'hui parce que pour un oui, pour un non, nous voyons la turbulence, nous voyons que la ville de Bouaké est bouleversée. C'est une ville commerciale où il y a plein de jeunes qui sont restés, qui n'ont pas de travail. Il y a ce phénomène-là aussi qui gangrène la ville. Je pense que l'État est en train de faire beaucoup, mais il reste beaucoup aussi à faire. Il y a beaucoup de services créés et de partenaires pour qu'on puisse créer des emplois au niveau de Bouaké. Ça va nous éviter un peu certain nombre de revendications à Bouaké.
Abdoulaye vend des vêtements au grand marché. Lui aussi déplore le manque de perspectives pour les jeunes et un tissu économique qui régresse. Mais il estime qu'il faut prendre en compte les revendications des démobilisés.
Il mérite que l'État fasse quelque chose pour eux, un geste à l'air égal. Si les frères militaires ont eu quelque chose, donc ils ont leurs droits aussi, puisque c'est eux tous qui ont fait cette guerre. Même si ça ne vaut pas aussi le coût des militaires, au moins qu'ils gagnent un peu. Si l'État peut faire au moins 5 gestes à l'air égal, même 1 million chacun, vraiment ça nous fera beaucoup plaisir pour que la population de Bouaké puisse vivre en paix et en harmonie.
Une manne de l'État qui par ailleurs profitera aux commerçants de la ville.
En octobre dernier, une catastrophe ferroviaire a fait 79 morts et 600 blessés au Cameroun. Le déraillement du train s'était produit le 21 octobre à l'approche de la gare d'Ezeka dans le centre du pays, entre Yaoundé et Douala. Selon les conclusions de la commission d'enquête rendue publique cette semaine, la société Camrail, filiale du groupe français Bolloré, est responsable, Sébastien Demet.
C'est bien Camrail qui est désigné comme principal responsable de la catastrophe. Première cause, la vitesse excessive du train, 96 km/h au lieu de 40, un dépassement dû au non-respect de plusieurs règles de sécurité sur un train qui présentait de graves défaillances et anomalies, dit le communiqué. Les experts parlent d'une surcharge du convoi et d'une rallonge inappropriée de la rame, d'un freinage défaillant pour certains wagons de voyageurs ainsi que pour la motrice, ou encore la non-prise en compte des avertissements du conducteur. Face à ces conclusions, le président demande compte des sanctions contre les responsables. Le rapport sera transmis à la justice, dit le texte. Paul Biya souhaite que le partenariat entre l'État et Camrail soit revu. L'entreprise est détenue à 75% par le groupe français Bolloré. Le Cameroun est lui actionnaire minoritaire avec moins de 15% des parts. Or, Paul Biya souhaite désormais que l'État soit plus présent dans la société. Enfin, concernant les victimes, la présidence annonce une enveloppe d'1 milliard de francs CFA supplémentaires pour les assister. Elle ordonne également le renforcement du dispositif de prévention des catastrophes. La commission d'enquête pointe en effet l'action des secours. Elle demande plus de réactivité, de cohérence et de fluidité dans les opérations.
Il faut noter cette semaine également en Somalie la première revendication d'un attentat à suicide par le groupe État islamique et des troubles sociaux dans le sud de la Tunisie, dans la région de Tataouine. Suite d'une semaine d'actualité, il y avait une information aussi intéressante dans le genre, si j'ose dire, Pierre Grosser, c'est que la Chine et la République démocratique du Congo, on fait un lien entre l'Asie et l'Afrique, sont les pays les plus affectés par les déplacements intérieurs de population. Quasiment 7 millions de nouvelles personnes chassées de leur domicile par une guerre l'an dernier. Près de 1 million ont été recensées en RDC. Et en ce qui concerne la Chine, ce sont les catastrophes naturelles qui ont provoqué les plus grands déplacements de population. Près de 7 millions de déplacés en Chine l'année dernière. L'Afrique est aussi dans ce livre parce que, effectivement, ce qui s'est passé en Asie a eu des répercussions sur le cours de l'histoire en Afrique, notamment au moment de la décolonisation, Pierre Rosser.
Au moment de la décolonisation et dans ce qu'on appelle traditionnellement le tiers-monde, le mouvement des non-alignés, etc.
Mandou, etc.
Voilà, parce qu'on a, souvent on a cette vision encore une fois finalement d'une rivalité entre Américains et Soviétiques, d'un monde bipolaire et d'une compétition dans le tiers-monde. Mais cette compétition était pas seulement entre les États-Unis et l'Union Soviétique, c'était une compétition entre les États-Unis et la Chine, une compétition entre la Chine et l'Union Soviétique et une compétition entre la Chine et l'Inde. Et l'Afrique a été un des terrains de cette compétition. Par exemple, les Chinois ont essayé de faire une seconde conférence de Bandung à Alger en 1965. Ça a échoué au dernier moment, notamment à cause du coup de force de Boumédienne en 1965. Ouais. Mais il y avait toute une compétition entre Indiens et Chinois auprès des Africains pour essayer d'avoir justement cette conférence afro-asiatique. Et l'échec de cette conférence afro-asiatique a fait que c'est le non-alignement qui est devenu finalement la voie des pays du Sud. Ensuite, c'est très différent puisque vous avez la rivalité entre les Chinois et les Soviétiques, et les Chinois sont venus, parce qu'ils étaient opposés aux Soviétiques, à soutenir un certain nombre de pays qui étaient, disons, plutôt du côté américain, du côté occidental, justement le Zaïre, en partie l'Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce que les Soviétiques étaient soutenaient l'Angola, le Mozambique, etc., etc. Donc la compétition a été aussi là, et surtout, j'insiste beaucoup, c'est la guerre froide, c'est pas un monde bipolaire, et on le voit parce que la Chine a produit tout un tas de perturbations, notamment avec sa rupture avec l'Union Soviétique, et qu'elle était aussi une concurrente anti-impérialiste avec l'Union Soviétique face aux États-Unis.
Ah, dans ce livre, Pierre Grosser, vous nous expliquez aussi que l'Asie est au cœur de l'histoire de l'arme nucléaire.
Alors ça, évidemment, parce que les seules bombes nucléaires qui ont explosé volontairement l'ont été à Hiroshima et Nagasaki. Ensuite, il y a eu des essais nucléaires en Asie. Et encore une fois, il y a eu un gros incident, notamment en 1954, avec des pêcheurs japonais qui ont été irradiés à cause d'essais américains. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on n'a pas réutilisé la bombe atomique, notamment dans la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, voire dans la guerre entre l'Inde et le Pakistan de 1971. Et on s'aperçoit qu'une des raisons importantes pour lesquelles les Américains ont hésité, au-delà des réflexions stratégiques que l'on connaît à peu près tous, c'est aussi la crainte de l'opinion asiatique qui aurait considéré que de bombarder une nouvelle fois des populations asiatiques aurait été vraiment un acharnement raciste. Ça, c'est vraiment visible dans les archives britanniques et américaines, que ça a été un facteur qui explique pourquoi on n'a pas réutilisé la bombe atomique dans les guerres asiatiques.
Ah, vous parliez tout à l'heure du Vietnam. Le Vietnam est aussi dans le livre. Vous analysez les répercussions qu'a eu cette guerre, d'abord avec les Français et surtout après avec les Américains, sur les relations international au XXe siècle, et même pour comprendre aujourd'hui l'Asie de ce XXIe siècle.
Alors pour comprendre l'Asie, bien entendu, puisque ensuite vous avez eu une autre guerre entre Chinois et Vietnamiens, alors que les Chinois avaient soutenu les Vietnamiens. Ouais. Et puis pour les États-Unis, c'est un tournant absolument majeur de leur histoire, puisque après le traumatisme de la guerre du Vietnam, eh bien ils ont changé un certain nombre de choses dans leur stratégie, changé aussi dans leur mode de représentation, par exemple des militaires. Hein, je veux dire, au début des années 70, on a tous vu Rambo, même si c'est un peu exagéré, mais enfin en gros, ouais. C'est-à-dire que les GI étaient très mal considérés. Si vous voyagez aux États-Unis, les GI sont prioritaires dans les avions, et donc il y a eu une réaction à tout ce qui s'est passé au Vietnam. Et bien entendu, il faut bien comprendre que toutes les guerres qui sont menées aujourd'hui au Moyen-Orient, eh bien les Américains se souviennent de ce qui se passe au Vietnam. Les Américains ont mené toutes leurs guerres jusqu'en 1979 en Asie, toutes leurs grandes guerres, et pratiquement tous les morts militaires américains sont morts en Asie. Le grand tournant, c'est 1979. Maintenant, c'est au Grand Moyen-Orient, dans le Grand Moyen-Orient, que les soldats américains meurent.
Merci Pierre Grosser. Il faut lire absolument ce livre qui s'intitule « L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle », un livre publié chez Odile Jacob. Merci Pierre Grosser.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin, une émission que vous pouvez podcaster, bien sûr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons d'un grand esprit un peu tombé dans l'oubli, mais que l'historien François Hartog, notre invité, ressuscite dans son dernier livre. Je veux parler d'Ernest Renan. Idées demain, dimanche, 17h10. C'est une émission que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez.
By the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond.
On se quitte avec un clin d'œil à Roger Moore, l'acteur britannique qui s'en est allé mardi. Le sein, amicalement vôtre, James Bond, tout ça vous connaissez.
Eh oui.
C'était tout cela, Roger Moore. Petite évocation. Bon week-end.
I told you about him. John, this is Simon Templar.
Fred Sinclair?
Your lordship.
Daniel?
Well, it's not Florence of Arabia.
Where are you?
Listen well, Lord Sinclair. You will hand over those papers at a given rendezvous within half an hour, or your friend will be killed.
Go ahead and kill him.